Lédine Gomang-Épaissé, bonjour.
Bonjour Karine Franck.
Toutes ces révélations, ces campagnes sur Twitter en Occident, est-ce que cela fait bouger les choses selon vous en Afrique en ce moment?
Pas forcément, parce que c'est une question sociale qui est tapie, malheureusement, comme cela, sous la structure sociale. Il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ce soit maintenant que ça bouge en Afrique, parce que ça a bougé en Occident.
Quels sont les secteurs, selon vous, qui sont les plus touchés par le harcèlement sexuel?
Dans la famille, et après ça déteint sur tout le reste. Dans la famille, parce que il y a le chef de famille, son épouse ou ses épouses, bien évidemment, mais il y a toutes les personnes de sexe féminin qui gravitent autour. Il va y avoir les employés de maison, il va y avoir la belle-famille, il va y avoir toutes sortes de profils de femmes qui sont dans son sillage et qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, vont se retrouver confrontées à devoir ou à avoir à céder à ses avances ou à les subir. Et ensuite, les mêmes coupables se trouvent être des chefs d'entreprise, se trouvent être dans le cadre du travail, ce sont les mêmes individus.
Et en face, du côté des femmes, des mécanismes se mettent en place également.
En face, les femmes qui subissent cela dans le cadre du travail sont des personnes qui souvent ont déjà pu être confrontées à cela dans un cadre beaucoup plus restreint. Donc elles ont intériorisé une manière de réagir. Elles ont cet enjeu qui est celui de conserver son travail. Elles ont la préoccupation que l'on peut comprendre légitime de ne pas se faire stigmatiser parce que tout n'est pas de dénoncer. Encore faut-il pouvoir assumer d'être celle par qui l'opprobre est arrivé sur celui qui est considéré comme étant l'instance supérieure, à savoir le patron. Donc c'est extrêmement compliqué. Si nous avions quelqu'un qui arrive dans le cadre du travail et qui tout d'un coup tombe dans une configuration ou quoi, mais enfin comment, monsieur le patron, qu'est-ce que vous faites là? Où est-ce que vous mettez les mains? Parce que cette personne-là, jamais de sa vie, n'a été confrontée à cela. Il est vrai que même spontanément, elle pourrait crier au secours, elle pourrait le dénoncer, elle pourrait le faire savoir. Or, il se trouve que c'est des personnes qui déjà ont appris à fermer leur bouche pour toutes sortes de raisons. Donc, elles ne vont pas mettre en péril quoi que ce soit à ce moment-là.
Oui, et là, c'est la loi du silence.
C'est la loi du silence. Et pour les quelques-unes qui peuvent en parler, alors c'est extrêmement tordu parce que on sait comment les femmes sont dans la compétition les unes vis-à-vis des autres. Ah, toi, tu dis ça, est-ce que tu es sûre que... Ça peut même générer des choses encore plus tordues, des choses très inattendues. Parce que de se confier à une collègue voudrait faire comprendre à la collègue qu'elle, elle n'a pas été sollicitée. Voyez-vous? Ah bon, tu penses que tu es la plus belle, tu es la plus mignonne. Tu es sûre que tu n'es pas mytho un peu là? Il y a toutes sortes de choses inattendues qui peuvent s'installer ou se superposer à une situation déjà extrêmement difficile et même dramatique.
On entend beaucoup de témoignages en ce moment, beaucoup par exemple de femmes politiques qui s'expriment sur le sujet. En Afrique, on n'en entend pas.
C'est-à-dire que les femmes en politique ne sont pas extrêmement nombreuses, d'une part. Et d'autre part, même sans tout ça, que déjà, on les a toutes soupçonnées de promotion canapé. Ah ben oui, bien évidemment, si une telle est élue, elle est bien sûr que c'est parce qu'elle a fait jouer ses charmes. Donc déjà, elles ont déjà cela sur le dos. Alors maintenant, si en plus il fallait qu'elles disent que ceci ou que cela, on tourne en rond, hein. On tourne en rond.
Dans de nombreux pays africains, cela reste très difficile de porter plainte pour harcèlement. Faut-il changer les lois selon vous?
Vous savez, ça reste difficile, oui, ça reste difficile, mais de changer les lois, c'est pas parce qu'on change une loi que l'on change la pratique, voyez-vous. C'est pas les lois qu'on doit changer d'abord, c'est que c'est la société qui doit évoluer, les modèles de société, et que les gens arrêtent avec la duplicité, tout simplement. Parce que si, par ailleurs, une fois qu'on a fermé son bureau, parce qu'on est monsieur le juge, monsieur le commissaire, ou monsieur je ne sais pas qui, le maître d'école, ou je ne sais pas quelle instance familiale, on retourne dans sa vie privée, dans laquelle on pratique ces choses, que l'on récuse, à ce moment-là, il y a un véritable problème. Donc je pense que c'est la question du modèle de société qui se pose.
Ce que permettent finalement les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'infliger à son agresseur une sorte de honte publique, est-ce que ce n'est pas plus efficace qu'un procès?
Bah, écoutez, vous savez, dans les Afriques traditionnelles, il se trouvait que lorsque quelqu'un avait commis un délit, on le mettait au banc de la société. C'est-à-dire que c'est parce que ça se savait que c'était déjà très difficile pour cette personne à supporter, à vivre. Donc la mise au banc de la société rejoint d'une certaine manière ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Encore faut-il pouvoir en établir la preuve.
C'est un système qui a ses limites aussi.
Oh que oui, tout de même. L'anonymat derrière un clavier, c'est peut-être confortable pour une telle personne qui n'a pas envie que l'on sache qui elle est, qui n'a pas envie d'être connue ou reconnue ou identifiée par son entourage immédiat et même pas par le grand public comme ayant subi telle ou telle chose, parce qu'il y a le facteur de la honte qu'on ne peut pas négliger, mais simplement on ne peut pas bâtir un système, tout un système sur je suis derrière mon clavier et je dis ce que j'ai vécu et peut-être j'en rajoute une couche ou je monte un roman alors que je n'ai rien vécu du tout et je crée du tort à une personne. On ne peut pas bâtir un système là-dessus non plus.
Lédine Gomang-Epessé, merci.